merci d'être avec nous. Je le disais, les enseignants étaient en grève pour dénoncer des suppressions de postes et des conditions de travail dégradées. Pourquoi, vous êtes enseignante également, pourquoi cette colère des enseignants ne retombe pas ou ne retombe même jamais ?
Des enseignants, des parents d'élèves et j'espère de l'ensemble de la société. J'espère que cette colère, elle va même se lever parce que on a quand même un gouvernement qui ne compte pas les milliards quand il s'agit de la guerre. Mais là, voilà, il va faire des millions d'économies sur l'éducation, au prétexte qu'il y a moins d'enfants dans les écoles. Hein, mais ça serait précisément l'occasion de changer la façon d'enseigner. Hein, parce que là, donc, il a programmé 4000 suppressions de postes qui vont entraîner la fermeture de 2000 classes. Donc, à nouveau, on va se retrouver dans des situations où on va travailler avec des grands groupes, des classes trop chargé, on va pas pouvoir justement s'occuper de chacun. Enfin, franchement, c'est écœurant parce que voilà, c'est comme s'il y avait trop de profs, c'est comme s'il y avait trop d'AESH, c'est comme s'il y avait trop d'infirmières, d'encadrants dans l'éducation nationale. Moi, je suis dans un lycée, 2200 élèves, il y a plus d'infirmières. Plus d'infirmières. Alors, le gouvernement a fait de la santé mentale des jeunes une priorité, mais voyez, voilà, il y a plus d'infirmières. Et puis, quand les profs tombent malades, ben, ils sont pas remplacés, etc., etc. Donc là, on a la possibilité justement pour une fois, de mettre peut-être en place des conditions de travail pour les enfants, pour les enseignants meilleurs. Eh ben non. Il faut faire des économies, comme il faut en faire sur la santé, comme il faut en faire sur tout ce qui est utile à la population. En fait, donc oui, c'est écœurant.
Justement, et on va écouter le gouvernement et notamment le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray.
Nous ne pouvons pas, mais vraiment, enfin, je me permets vraiment de conjurer tout le monde par rapport à ça. Nous ne pouvons pas ne pas regarder en face une réalité démographique inédite dans notre pays. Nous n'avons jamais, jamais connu ça. Quand on perd une génération tous les 4 ans, je suis désolé, mais compte tenu de notre configuration scolaire, nous ne pouvons pas ne pas le regarder. Non, madame, nous ne cassons pas l'école publique. Madame la députée, monsieur le député, pardonnez-moi, je réponds à la question, ça vous dérange pas. Lorsque nous avons depuis 2017 perdu 600 000 élèves dans le premier degré, nous y avons créé 16 500 postes. C'est ça la réalité. Moins 600 000 élèves, plus 16 500 postes. À présent, nous sommes en train de perdre de manière accélérée des élèves et effectivement, nous sommes amenés à suivre en partie cette démographie.
Quand on entend Édouard Geffray, on a le sentiment que le gouvernement ne comprend pas ce qui se passe dans le milieu scolaire. Parce que pour lui, il faut réduire des classes alors que, au fond, les profs, vous venez de le dire, disent qu'au contraire, ce n'est pas la solution.
Mais il sait très bien ce qui se passe. Il le sait pertinemment, sauf que ce n'est pas son problème d'apporter des connaissances, de la culture, de permettre aux jeunes, en particulier des classes populaires, de s'épanouir, de découvrir des choses, de s'émanciper. Ce n'est pas son problème. Donc, en effet, hein, la catastrophe qu'on observe, mais depuis des décennies dans l'éducation nationale, hein, qui consiste en effet à exclure précocement des dizaines, des centaines de milliers de jeunes, hein, cette catastrophe qui consiste à sélectionner, qui consiste à vouloir tous les faire rentrer dans un moule, etc., ça va continuer. Voilà, ça va continuer. Donc tout ça nous révolte parce qu'on fait précisément ce qui ne marche pas. C'est-à-dire, on supprime, on regroupe les enfants avec des effectifs donc de plus en plus importants. On supprime des options, on supprime des possibilités de découverte, on supprime un tas de choses qui permettraient justement aux jeunes, aux enfants, de grandir, d'avoir envie aussi, envie d'apprendre, envie de découvrir. Et ça passe par un tas de dispositifs, pas seulement d'ailleurs un enseignant, mais tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, il fait exactement ce qui ne marche pas, mais parce qu'encore une fois, ce n'est pas son problème. Voilà, leur problème à ce gouvernement, et comme au gouvernement qui le précédait, c'est de gouverner pour que les capitalistes, la bourgeoisie, les milliardaires prospèrent. Point barre. Voilà, donc... on est confronté à ça et aujourd'hui, comme ils prospèrent, y compris avec la guerre, on mise sur la guerre.
Oui. Et l'école est toujours cette variable d'ajustement budgétaire, quoi.
Mais toujours, ouais. Toujours. Et c'est ça qui et c'est vrai que moi c'est le contraste entre vraiment tous les moyens. Enfin, il a annoncé dernièrement un nouveau porte-avions, c'est 10 milliards. Leur programme de sous-marins nucléaires, alors là c'est carrément 40 milliards. Ah là, ils sont ambitieux, hein. Ah là, ils voient loin. Pour fabriquer plus de missiles, plus de munitions, plus de chars d'assaut, là ça y va. Ils mettent pas mal de moyens, y compris ils s'adressent aux jeunes d'ailleurs, hein, parce que vous savez, même dans l'éducation, il y a de plus en plus maintenant de classes défense. C'est-à-dire qu'en fait, on oriente les jeunes, et d'abord les jeunes qui sont en difficulté, hein, ce sera pas les enfants des classes riches, aisées, cultivées, hein, mais c'est les enfants évidemment de prolétaires, hein, qu'on va orienter vers des classes défense, c'est-à-dire vers l'armée en fait. Hein. Vous allez dans le salon Parcoursup, là, le premier stand que vous trouvez, c'est l'armée. Voilà, vous savez que à Pôle emploi, il y a maintenant un nouveau service qui est destiné à recruter les jeunes pour aller travailler dans l'industrie de l'armement. Donc c'est un service à part qui est d'ailleurs chapeauté par un ancien général. Hein, voilà, bah voilà où on veut emmener les jeunes, et on veut pas effectivement qu'ils aient du savoir, qu'ils découvrent des passions en eux, qu'ils s'émancipent. Non, c'est pas ça. Hein, donc et effectivement pour faire la guerre et mourir dans une tranchée ou sous une bombe, effectivement ça mérite pas tellement d'années d'études finalement.
Effectivement. Autre colère, hein, qui traverse le pays actuellement, notamment, c'est autour du pouvoir d'achat. Alors que les prix de la consommation ont augmenté de 1,7% en mars, la France devrait connaître un net regain d'inflation qui franchirait les 2% au printemps, donc selon l'INSEE. Je vous propose d'écouter Maud Brejon, la porte-parole du gouvernement, sur la hausse des prix.
Vous le savez, on a d'abord aidé les urgences qui ont été face à nous, les agriculteurs, les pêcheurs pour qui il n'était plus rentable d'aller en mer, les transporteurs qui étaient confrontés à des réelles difficultés. Pour autant, toutes ces aides nécessaires n'épuisent pas la question des travailleurs qui roulent beaucoup, et vous l'avez dit à juste titre. On pense aux infirmières, on pense aux aides-soignantes et des aides dédiées, spécifiques, ciblées, bornées dans le temps, sont actuellement à l'étude en lien et à la demande du Premier ministre, parce que nous savons la difficulté auxquelles ils sont confrontés. Il y a évidemment des négociations en cours pour une revalorisation globale qui sont en discussion avec la CNAM. C'est aussi quelque chose d'important. Et nous travaillons pour ces publics prioritaires à des réponses qui sont aussi et qui doivent aussi être des réponses structurelles. Il y a des réponses d'urgence, et elles sont impératives, et il y a des réponses de long terme. Et les publics que vous avez cités, ces travailleurs qui roulent beaucoup, doivent être les premiers ciblés par ces réponses structurelles et par le plan d'électrification qu'on annoncera la semaine prochaine.
On a l'impression, en tout cas j'ai l'impression, qu'elle ne croit pas vraiment à ce qu'elle dit. L'inflation en tout cas semble devenue permanente, et les salaires par contre eux ne suivent pas. C'est vraiment ce qui est dramatique pour de nombreux Français aujourd'hui.
Bah, là en l'occurrence, le coup de massue, c'est quand même l'augmentation du prix de l'essence. Hein. Vous vous rendez compte, 50 centimes de plus. Hein. Vous avez beaucoup de salariés, de travailleurs, parce que là elle parle de quelques professions, hein, comme si c'était finalement des cas bien ciblés. Mais en réalité, tous les travailleurs, quand ils veulent faire aujourd'hui leur plein, quand ils ont suffisamment d'argent pour faire leur plein, le plein a augmenté de 15, 20, 30 euros. Vous vous rendez compte, c'est un coup de massue. Il y a, y compris aujourd'hui, des salariés qui n'ont plus les moyens d'aller au boulot parce que ça coûte trop cher. Donc c'est une situation qui est en effet très grave, et qui est grave bien particulièrement pour tous ceux qui avaient des petits salaires et qui en étaient de toute façon déjà à compter chaque euro dépensé. Donc c'est une situation qui est très grave, et c'est une situation qui ne fait que commencer, parce qu'on sait très bien que d'abord ça va durer, c'est pas demain, hein, que, hein, y compris si le détroit d'Ormuz était réouvert, c'est pas en une semaine ou en un mois que les choses elles vont se réguler. Et puis c'est qu'on nous annonce aussi l'augmentation du gaz, des engrais, donc des produits agricoles, l'augmentation du plastique, l'augmentation du transport en général. Enfin bon, on connaît la chanson. Tout ça, ça va être une explosion de tous les prix. De tous les prix. Donc le problème, en effet, pour se protéger de ça, c'est pas des petites mesurettes ciblées je ne sais pas où. Hein. La réalité, c'est que il va falloir que les travailleurs se battent, se disent mais non, on n'a pas à payer pour ces profiteurs de guerre. Tous ceux qui spéculent aujourd'hui sur la guerre et qui se font des marges inouïes sur la guerre. Donc il faut effectivement que nous, on sauve notre peau. Et comment on peut sauver notre peau? Ben, c'est avec notre salaire, parce que c'est ça qui nous permet de vivre. Donc oui, nous disons, il faut absolument s'organiser, il faut se réunir et il faut être à l'offensive. On doit se battre pour que nos salaires y suivent. On peut tous compter combien on a perdu au mois de mars. Hein, en payant justement l'essence. On peut tous faire le compte. Et ben, c'est ce qu'il nous faut pour le mois prochain de plus sur notre fiche de paye. Sans ça, si vous voulez, toutes les mesures là qui vont nous sortir, ils vont nous rouler dans la farine.
Est-ce que vous croyez justement que on peut voir entre guillemets un retour des gilets jaunes? On se souvient que quand ça avait explosé il y a maintenant quelques années, c'était justement suite, entre autres, hein, à la hausse du prix du carburant. Est-ce que là, on n'est pas loin de cette explosion-là à nouveau?
Bon, je sais pas, mais en tout cas, toutes les raisons de pas accepter cette situation. Vraiment, on a toutes les raisons. Parce que, encore une fois, on est en train de plonger à nouveau dans une crise. Et on sait comment cela s'est passé, justement, suite à la guerre en Ukraine. C'est le monde du travail qui a payé. Comme il a payé, d'ailleurs, pour le Covid. Il a payé en étant, d'ailleurs, en première ligne, en bossant. Mais comme à chaque fois. Comme à chaque fois, c'est les travailleurs qui font le taf, hein, et puis ils sont quand même rackettés. Ils continuent d'être exploités, ils continuent d'être virés quand finalement les capitalistes ont d'autres plans que de continuer avec l'entreprise qui la ferme, etc. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Et ça doit venir de nous en réalité, parce que ça ne viendra pas d'en haut. Toutes les mesures qu'ils discutent là pour soi-disant nous protéger, ça nous a protégés de quoi? Hein, les inégalités, la misère, l'appauvrissement du monde du travail est visible. Chacun la mesure. Donc il faut que effectivement qu'on prenne les choses en main, c'est-à-dire qu'on renoue avec les luttes collectives et avec des buts. Et il faut que les travailleurs soient les moteurs de tout ça. Les travailleurs qui justement sont indispensables à la société, qui fabriquent tous les profits dont les capitalistes sont dépendants. Donc c'est cette force-là qu'il faut utiliser. Avec le retour des grèves, de l'organisation collective et avec des buts clairs. Et le but clair, pour moi, c'est on doit prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les caisses du patronat, dans les profits. On doit faire payer le patronat, le grand patronat, bien sûr. Le grand, celui qui prospère, ces milliardaires, etc. Donc c'est eux qui doivent payer.
Et comment on fait pour les faire payer?
Mais c'est un rapport de force. C'est un combat qu'on doit mettre en place. Et encore une fois, on dit oui, oh là, les prix augmentent, mais c'est pas le Saint-Esprit. Hein, les prix augmentent parce qu'il y a effectivement parce que les industriels, les financiers, eh bien, ils jouent avec la loi de l'offre et la demande, parce qu'ils font monter les prix. Voilà, ils font monter les prix. Et en même temps qu'ils font monter les prix, ils font monter leur marge, leur profit. Là, je lisais un article en venant ici. Total Energy aurait réalisé un super coup spéculatif, puisque en début mars, il a acheté beaucoup de pétrole. Il a multiplié le volume de pétrole acheté et il l'a revendu quasiment deux fois plus cher. Il aurait fait un coup de 1 milliard de dollars. Ouais. Voyez ? Donc voilà l'argent qu'il y a dans les caisses effectivement de cette grande bourgeoisie, de ces grands groupes industriels et financiers. Eh bien, c'est cet argent-là qu'on doit aller chercher. On doit aller le chercher, en effet, d'abord en disant, nous, nos salaires, ils doivent suivre. Il est hors de question qu'on soit racketté en plus d'être exploité au travail, et puis confiscation des bénéfices de tous ces profiteurs de guerre pour répondre à nos besoins.
Justement, en parlant de la guerre, la situation internationale se tend, on le sait bien et on en subit les conséquences actuellement. Est-ce que on est dans une situation qui semble incontrôlable, ce qui se passe en Iran, au Liban, notamment cette guerre déclarée illégalement donc par les États-Unis et Israël? Est-ce que cette situation semble incontrôlable?
La guerre est plus que jamais le mode de fonctionnement normal du capitalisme. Voilà, parce que en effet, on a en permanence, hein, le capitalisme, de toute façon, c'est la guerre pour les marchés, c'est la guerre pour les matières premières, pour les terres rares, pour l'énergie, le pétrole, etc. Maintenant, l'intelligence artificielle. Mais là, il y a une offensive générale de l'impérialisme américain pour rester le maître du monde. Et pour, en effet, éliminer, ou en tout cas forcer, hein, tous les régimes qui lui résistent à obtempérer, à se mettre à genoux devant eux. Et donc, c'est pas que la question de l'Iran. Hein, on a vraiment, en effet, aujourd'hui, la première puissance impérialiste mondiale qui est à l'offensive, parce que elle se sent menacée, elle se sent poussée par la Chine, elle se sent concurrencée sur plein de terrains, et donc elle veut mettre toutes les possibilités de son côté pour, en effet, rester le maître du monde. C'est la raison pour laquelle, ils essayent de contenir cette puissance qu'est l'Iran au Moyen-Orient. Et là, ils ont utilisé, comment dire, une opportunité, j'ai envie de dire, hein, avec la politique israélienne, avec l'affaiblissement de l'Iran suite à tous les événements qui se sont déroulés dans la région. Hein, mais on voit qu'ils veulent faire en Amérique latine. On voit quand même, il a quand même capturé Maduro, qui est en train de croupir dans une geôle new-yorkaise. Il est en train d'affamer Cuba. Hein, c'est-à-dire, voilà, tous les régimes qui ne me lèchent pas les bottes, hein, ouais, je vais les recadrer et je vais utiliser tous les moyens possibles. Alors là, pour Cuba, c'est les priver de pétrole, c'est-à-dire les asphyxier économiquement. Ils n'ont pas besoin de, ils ont pas besoin de balancer des missiles, mais c'est quand même extrêmement violent et il y a des morts. Cette politique, elle fait des morts. Hein, et puis ailleurs, quand il en a la possibilité, bah c'est avec des bombes. Voilà.
La France et l'Europe peuvent-elles peser justement dans ce rapport de force face à cet impérialisme américain-états-unien ?
Mais là, d'abord, la France est elle-même un impérialisme, parce que vous en parlez comme si finalement la France pourrait être le justicier dans cette affaire-là, hein, comme si elle allait apporter d'autres valeurs, d'autres, voilà, la démocratie, la paix, etc. Mais non. Non, si vous voulez, il y a les plus gros vautours, hein, évidemment, les États-Unis, Israël derrière eux, puis il y a les vautours un peu plus petits, mais la France en fait partie. Et la France est un pays impérialiste qui d'ailleurs a fait le choix, y compris dans la guerre en Iran, de se mettre dans le camp quand même des États-Unis et d'Israël, hein, en nous expliquant que en gros ils se défendent, c'est-à-dire ils ont repris les mensonges des États-Unis et de l'État d'Israël, et je tiens à le dire, ils sont impliqués et en réalité ils font la guerre contre l'Iran parce que au prétexte d'aider, hein, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite de défendre leur espace aérien, ben, il y a des rafales, hein, qui décollent, qui tirent des missiles contre des drones iraniens. Donc en fait ils sont engagés déjà dans la guerre. Et ils sont engagés, bien sûr, du côté du camp impérialiste, parce qu'ils pensent que c'est de ce côté-là qu'il aura peut-être des miettes, tout simplement. Donc, voilà. Et ce que je pense, c'est que on le voit avec l'Ukraine, on le voit maintenant avec toutes les guerres qui ravagent l'Afrique, on le voit avec tous ces rapports de force en Amérique latine, au Moyen-Orient. En fait, on est engagé dans une troisième guerre mondiale. Voilà, et évidemment, c'est une guerre aucun travailleur d'aucun pays n'a intérêt à cette guerre. Dans cette guerre-là, c'est des puissances, effectivement. Voilà, c'est la puissance impérialiste qui mène la danse, ça c'est sûr, et c'est pour ses profits. Voilà, donc il n'y a pas à choisir un camp contre un autre. Hein, là, vous savez, j'aime répéter la phrase d'Anatole France, hein, qu'il a dit au sortir de la Première Guerre mondiale, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les profits des industriels.
On va terminer justement sur cette phrase d'Anatole France. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir fait ce petit tour sur l'actualité. Merci encore une fois.